On va continuer ensemble notre série sur l'évangile de Marc et on est en plein maintenant dans le ministère de Marc, le ministère de Jésus, pardon, qui commence. C'est bien l'évangile de Marc, le ministère de Jésus. On a vu la semaine dernière quel était le message de Jésus. On a vu que c'était en quelque sorte une sorte de prologue au prologue qui venait conclure en quelque sorte toute la séquence qui introduisait Jésus et qui nous montrait quel était le plus important dans le ministère de Jésus, à savoir son message. Et aujourd'hui, nous allons voir un texte encore très court, mais qui contient une certaine richesse théologique sur la notion d'appel. Notamment l'appel initial dans la vie chrétienne, l'appel à la vie de disciples. Et c'est un texte très simple qui va nous décrire comment les tout premiers disciples, Simon et André, son frère, ainsi que Jacques et Jean, des pêcheurs, ont été appelés à la suite de Jésus. Et je vous propose que nous ouvrions ce texte dans le premier chapitre de Marc. Et on va lire ensemble les versets 16 à 20. Marc 1. Versets 16 à 20. En passant au bord de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans leur bateau à réparer les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les employés, les mercenaires, et ils s'en allèrent à sa suite. Prions. Seigneur éternel, on te rend grâce de ce que tu nous présentes encore, un court texte qui contient une richesse d'informations sur à la fois comment tu as appelé des hommes à te suivre, mais aussi comment, de tout temps, tu continues encore aujourd'hui à appeler des personnes à entrer à ta suite, à entrer des personnes, à rentrer en compte avec toi, à appeler des personnes à te suivre dans ton alliance, dans ta vie, dans l'imitation de ta personne, Seigneur, pour leur donner non pas simplement une espérance, même si tu la donnes, Seigneur, mais aussi un travail avec toi. On devient collaborateur avec toi dans l'œuvre, Seigneur. Quel privilège de savoir que tu ne nous traites pas conformément à nos péchés. Non seulement tu nous purifies, non seulement tu nous sauves, mais tu nous accordes la grâce d'œuvrer à tes côtés, Seigneur, de travailler pour le royaume. Et nous te bénissons, mon Dieu, de ce que nous avons cette merveilleuse opportunité, nous qui ne valons rien par notre nature même, mais à cause de ta grâce, Seigneur, tu nous attires dans tes bras. Nous voulons te bénir et te remercier, te prier pour que ce texte, encore une fois, puisse nous parler aujourd'hui, nous instruire et nous diriger au nom de Jésus. Amen. Apprendre un métier au XXIe siècle, c'est très différent de la manière dont on apprenait un métier il y a une centaine d'années. Aujourd'hui, si on veut vous apprendre un travail, généralement ce qui se passe, c'est que vous passez par un processus de formation. C'est valable aussi pour le métier de pasteur. Je sais que parmi vous, certains auraient tendance à contester qu'il s'agit d'un métier, n'est-ce pas ? Mais c'en est bien un, je vous le confirme. Il y a aussi aujourd'hui toute une formation qui consiste à aller s'asseoir sur les bancs d'une école, par exemple, et à apprendre des concepts théoriques qu'on va ensuite apprendre à mettre en pratique avec des cours qui seront un peu plus, pour le métier de pasteur, de théologie pastorale, mais d'une manière générale, dans n'importe quel métier, on vous apprend à mettre en pratique des éléments théoriques. Alors bien sûr, il y a aujourd'hui des métiers qui sont plus manuels que d'autres, hein, je ne cherche pas à faire une généralité, mais si on revenait 100 ans en arrière, eh bien, apprendre un métier, c'était surtout apprendre en étant l'apprenti de quelqu'un. Vous étiez son apprenti et il vous transmettait son savoir. Autrement dit, aujourd'hui, pour apprendre un métier, on a plutôt tendance, en règle générale, à vous dire « Assieds-toi et écoute-moi ». Il y a 100 ans, on vous disait « Suis-moi ». Mais il y a une chose qui ne change pas encore aujourd'hui, c'est le mode et la manière dont nous sommes appelés à rentrer dans notre vie chrétienne et à marcher à la suite de Jésus. « Suis-moi, suivez-moi », ce sont deux mots qui synthétise clairement tout ce qu'on vient de voir dans ce court texte de Marc 1, versets 16 à 20, qui synthétise en fait l'appel de ses premiers disciples et même l'appel auquel nous avons répondu dans notre vie chrétienne. Il y a quelque chose ici qui relève de l'apprentissage, quelque chose ici qui relève de l'imitation. Alors le texte qu'on vient de lire, c'est en réalité deux courts appels, qui sont mis en parallèle l'un avec l'autre, et ce sont en fait deux fratries, deux frères qui sont deux fois appelés à suivre Jésus. Alors le texte que nous lisons souvent est perçu comme une invitation à rentrer dans un certain leadership, vous voyez ? Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la notion de leadership. On veut beaucoup de leaders, vous voyez, mais c'est vrai que la Bible présente souvent les choses sous la forme de serviteurs. C'est plutôt un appel au service, un appel à servir l'autre, un appel à servir le Christ. Et ici, l'appel que nous avons, c'est vraiment un appel à la vie de disciple avant d'être un appel aux responsabilités, avant d'être un appel à la vie de disciple. Et en disant cela, on a tout à fait conscience que l'un amène directement ou indirectement à l'autre. Mais c'est avant tout un appel à la vie de disciple, un appel à suivre Jésus. Et dans ce texte, nous découvrons au moins trois caractéristiques de ce que l'appel de Jésus implique, trois caractéristiques de ce que la vie de disciple implique, et c'est ce que je vous propose que nous regardions ensemble. Première caractéristique, nous voyons que la vie de disciple, et l'appel à la vie de disciple par extension, c'est avant tout un appel à suivre Jésus. Un appel à suivre Jésus, et c'est important d'insister et de souligner ces choses-là. Quand je vous parle d'un appel à suivre Jésus, je vous parle d'être un follower de Jésus, n'est-ce pas ? Le terme follower, là, si je l'utilise aujourd'hui dans notre, dans nos champs lexicaux et dans ce siècle, 21e siècle, n'est-ce pas, où les réseaux sociaux ont pris une telle place dans nos vies, le mot follower, il est tout de suite connoté. Vous pensez tout de suite Twitter, vous pensez tout de suite Facebook, et vous vous dites, bah voilà, follower, ça veut dire suivre la page de quelqu'un, suivre le compte de quelqu'un, regarder ses photos sur Instagram. Être disciple dans la Bible n'a strictement rien à voir avec le fait d'être follower de cette manière-là. À vrai dire, on se demande parfois si l'être occidental, moderne du 21e siècle, celui qui est individualiste par essence, postmoderne même plutôt que moderne, peut encore comprendre quelque chose à cette notion de disciple qu'on retrouve dans les Écritures, parce que la vie de disciple n'a strictement rien à voir avec le fait d'être un follower sur Twitter, d'être un follower sur Facebook. Au premier siècle, ce concept de disciple, il évoquait quelque chose de particulier, c'était pas quelque chose qui sortait comme ça de nulle part. Et quand Jésus va voir Pierre et André et qu'il leur dit « Suis-moi », eh bien il savait exactement ce type de suivi qu'ils étaient appelés à opérer en allant à la suite de Jésus. Alors du coup, d'où pouvait venir leur compréhension de ce qu'était un disciple à l'époque ? Ben déjà, du temps de Jésus, il y avait ce qu'on appelle des rabbis. Les rabbis avaient des disciples. Il y avait notamment, et j'en ai déjà parlé, une secte juive qui était particulièrement influente, les pharisiens, avec des gens qui avaient des maîtres à penser, des gens qui étaient très estimés dans la communauté pharisienne. Vous aviez souvent des penseurs qui étaient très placé en haute estime sur un piédestal. Paul, par exemple, était un disciple d'un pharisien très influent qu'on appelait Gamaliel. Alors les pharisiens étaient une secte juive qui souvent plaçait sur un pied d'égalité leur tradition et l'enseignement de la parole de Dieu. On a l'impression, quand on lit les évangiles, qu'ils étaient partout, omniprésents, n'est-ce pas ? Mais les spécialistes pensent qu'ils n'étaient pas si nombreux que cela. Il y a même des reconstructions qui parlent de 2000 individus. Alors, est-ce que réellement ces chiffres sont vrais ? Je ne peux pas le confirmer, mais ce qui est clair, c'est qu'ils étaient terriblement influents et qu'ils étaient très suivis, particulièrement parmi les classes populaires auprès de qui ils passaient pour des maîtres à penser. Mais je vais vous dire, ce qui frappait les foules avec ces pharisiens, c'était essentiellement leur côté très strict dans l'observance de la loi, notamment des prescriptions cérémonielles de la loi. Je le dis souvent, si je vous demandais quel est votre livre de la Bible préféré, vous me répondriez certainement un évangile ou Romain ou un texte du Nouveau Testament, peut-être Ésaïe si vous êtes passionné par l'Ancien Testament. Mais si vous aviez demandé ça à un pharisien du 1er siècle après Jésus-Christ, il vous aurait répondu Lévitique. Lévitique, c'est-à-dire le livre qui, dans vos Bibles, a encore les pages collées, tu vois, celui que tu consultes pas si souvent parce que bah, c'est un obscur pour toi, tu te demandes encore c'est quoi la pertinence pour toi, ce type de texte, et en fait, les pharisiens, c'est celui qu'ils aimaient. Quand je me suis converti, j'étais dans un milieu qui était particulièrement strict, vous voyez. Et des fois, j'avais l'impression qu'on faisait une compétition pour savoir qui était le plus strict. Strict dans son habillement, strict dans sa manière de penser, strict dans sa manière d'interpréter la Bible. Qui sait qui est le plus conservateur? Et des fois, j'avais l'impression qu'on faisait un concours presque puéril pour savoir qui c'est qui avait la doctrine théologique la plus dure, vous voyez. Eh bien, j'ai l'impression que quand vous regardez un peu les querelles pharisiennes, là, quand vous regardez ce qui se passait dans la littérature, on appelle ça la littérature proto-rabbinique, là, pré-rabbinique, de l'époque où Christ enseignait, ce qu'il avait probablement sous les yeux, on se rend compte que les pharisiens, c'était un peu ça. Ils faisaient la compétition à qui sera le plus dur, et il y avait des modérés, des moins modérés. Ce qui est clair, c'est que ceux qui les suivaient, ils étaient particulièrement attirés par ce côté strict de leur enseignement. Mais comme Jésus leur reproche en Matthieu 23, ils sont passés maîtres dans l'art du « faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Malheur à vous, pharisiens, dit-il, vous leur mettez des pesants fardeaux que vous ne remuez même pas du doigt. C'est terrible, terrible comme jugement. Ils liaient les autres par leurs commandements pesants, ils étaient incapables de les observer eux-mêmes. Ils annulaient la parole de Dieu au profit de leur tradition. Ils entraînaient les autres à en faire de même. Et ceux qui les suivaient le faisaient essentiellement à cause de leur maîtrise dialectique de la tradition, des enseignements, mais certainement pas à cause de leur exemple. C'est exactement ce que souligne Jésus dans les reproches qu'il fait aux pharisiens de Matthieu 23. Donc ça, c'était un exemple de disciple que Jésus et ceux qui étaient au premier siècle à sa suite avaient sous les yeux, mais ce n'était certainement pas le type de vie de disciple que Jésus voulait mettre en avant. Donc ça, c'était un modèle, mais a priori, ce n'est pas de là que André et Simon et Jacques et Jean tiraient leur vision de la vie de disciple. Alors, il y avait aussi les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient eux aussi des disciples. Vous vous souvenez certainement des fameuses communautés de prophètes Béni Navi, qu'on a abordé ensemble lorsqu'on discutait des cycles d'Élie et d'Élisée. Vous vous souvenez de ces groupes qui semblaient suivre Élie, puis ensuite qui avaient pris Élisée comme maître à penser. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Vous aviez aussi Jérémie, qui semblait avoir ses soutiens. Il avait un scribe, notamment, qui s'appelait Baruch. Il avait aussi certaines personnes qui étaient prêtes à prendre des risques pour lui et à l'aider. Par exemple, Jérémie, quand il a été jeté dans la citerne, eh bien, c'est un Éthiopien du nom de Ebed-Melech, littéralement serviteur du roi, qui est venu le sortir de cette citerne. C'est encore un exemple qui vous montre que les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient des disciples. Puis vous avez Jean-Baptiste, alors je crois que c'est l'exemple le plus direct puisqu'il est mentionné au début de Marc. Jean-Baptiste qui avait une communauté de disciples très très influente, qui était tellement ancrée dans ses enseignements qu'elle va perdurer après sa mort. Songez que dans le livre des Actes, chapitre 19 à Éphèse, on voit des disciples de Jean qui sont encore là et qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Preuve de l'influence de l'enseignement de Jean s'il en est. D'ailleurs, soit dit en passant, petite parenthèse, André, qui est appelé dans ce texte, eh bien, c'était un disciple de Jean-Baptiste. Vous retrouvez cette information dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 35 et 40, 42. Alors, les prophètes et Jean-Baptiste lui-même, ils étaient sans doute beaucoup plus intéressés que les pharisiens par l'exemple qu'ils devaient donner. Et ils l'affirmaient, ce message qu'ils véhiculaient, aussi par leur conduite. On est beaucoup plus proche ici de ce que la vie de disciple de Jésus implique. Mais leur approche consistait essentiellement à dire « Nous vous annonçons celui qui va venir et qui va vous diriger vers Dieu. Nous vous annonçons celui qui va diriger le cœur de ce peuple vers le Messie promis. » En d'autres termes, ils étaient en train de dire « Il vient après nous, celui dont toutes les Écritures parlent et qui va régler une fois pour toutes le problème du mal. » Donc, ok, on a ces deux exemples ici, là. Mais là encore, il y a quelque chose de plus quand on parle du concept de discipula, quand on parle de suivre Jésus-Christ. Parce que tout simplement, Jésus est un maître d'un autre genre. Il ne dit pas simplement « crois en ce que je t'annonce ». Il dit « crois en ce que je t'annonce ». Il vient annoncer un message, mais il ne se limite pas à dire « mon enseignement est meilleur », par exemple. Il ne se limite pas non plus à dire « reproduis ce que je fais en disant par exemple ma vie est meilleure. Oui, sa vie est meilleure, mais ce n'est pas seulement ce qu'il est en train de dire. Il ne dit pas non plus crois en Dieu, ou par exemple, je t'envoie d'une meilleure manière que les prophètes avant moi vers Dieu. Tout cela, il le dit, mais il ne se limite pas à cela. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Suis-moi ». Et il va falloir que nous intégrions ici qu'il y a quelque chose de plus que simplement intégrer des données sur Jésus ou même des paroles de Jésus ou assimiler l'enseignement de Jésus ou simplement copier les actes de Jésus. On parle d'une personne qui a vécu au 1er siècle et qui nous invite à le suivre. Être un disciple, c'est être un apprenant, un apprenti, quelqu'un qui est prêt à rester au pied du maître ou à ses côtés pour apprendre de lui comment accomplir sa tâche. Le meilleur parallèle que je puisse trouver, c'est les apprentis des temps anciens qui suivaient un patron pour apprendre la menuiserie, pour apprendre l'agriculture, pour apprendre tous ces métiers qui aujourd'hui sont un peu tombés en désuétude et du coup on n'a plus cette notion d'apprentissage. Mais nous parlons de Jésus-Christ lui-même qui se positionne comme une personne, un être humain incarné. Dieu ne s'est pas incarné dans un concept, dans une pensée philosophique, mais dans une personne. Et c'est cette personne que nous sommes invités à suivre. Ainsi donc, chers amis, ce n'est pas juste une doctrine que nous écoutons. C'est une doctrine que nous écoutons, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas simplement un exemple que nous reproduisons. Oui, il nous a laissé un exemple, mais ce n'est pas que ça. Le message et les œuvres de Jésus nous invitent à le suivre, lui. Le message et le Dieu qui en est l'auteur, qui en sont l'auteur, sont incarnés en Jésus. C'est lui que nous suivons. Alors pour nous, c'est un exercice qui est difficile à comprendre parce que nous ne vivons pas au 1er siècle. Jésus est mort, il est ressuscité, il a été enlevé, il est à la droite de Dieu, il est tous les jours avec nous, mais il n'est pas assis physiquement dans cette salle maintenant. Et par conséquent, à la différence de André, à la différence de Simon, à la différence de Jacques et de Jean, nous n'avons pas Jésus qui vient nous prendre par la main et qui nous dit « Suis-moi ». Mais nous apprenons par les témoignages qui nous sont laissés comment nous pouvons malgré tout devenir un apprenant de ce merveilleux maître, de ce maître divin qui est un homme parfait et qui l'est pour l'éternité, pour que nous apprenions à marcher à sa suite. Avant toute chose, l'appel à la vie de disciple est donc un appel à suivre un homme, l'homme-Dieu, ou plutôt le Dieu-homme, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est la première caractéristique que nous apprenons dans ce texte de la vie de disciple, de l'appel à suivre Jésus. Deuxième chose que nous apprenons dans ce texte, l'appel à la vie de disciple, eh bien c'est un appel au renoncement. Entre tes mains, j'abandonne. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. J'ai toujours lu ce chant en me disant, voilà le chant qui met la pression. Franchement, tu chantes ce chant, tu te concentres sur les paroles et tu te dis, ouf, si réellement je le chante de tout mon cœur, ce chant, il y a des choses qui doivent évoluer dans ma vie et changer dans ma vie. Et je crois que ce chant, il est aussi un moyen de grâce particulier, ce chant communautaire, lorsqu'on le regarde sous cet angle. Je vous l'ai dit, le texte qu'on a lu aujourd'hui, en fait, ce sont deux parallèles, deux récits qui décrivent deux appels différents. Et ce sont deux récits qui contiennent deux histoires de renoncement qui sont, somme toute, très similaires. Regardez le premier récit, c'est donc les versets, je pense que c'est le verset 16 et 17, le premier récit, ouais, 16 à 18, pardon. Pierre et André étaient en train de pêcher quand Jésus les appelle. Alors comprenez bien, Pierre et André étaient dans une barque, au milieu de la mer de Galilée. La mer de Galilée, pour vous, chers amis, qui vivez au Québec au XXIe siècle, quelque chose d'extrêmement drôle, c'est que la mer de Galilée est probablement plus petite que la plupart des lacs que vous trouvez dans les Laurentides. C'est petit, ok ? C'est une mer intérieure, c'est plus un lac qu'autre chose. Donc ils sont sur le lac, un lac très poissonneux probablement, en train de pêcher et ils utilisent un filet. Le terme utilisé, probablement ça renvoie à un terme très technique qui se référait à un espèce de filet rond, souvent manié par une seule personne. Donc on pense que quand il y a le pluriel qui est utilisé ici, c'est qu'ils avaient chacun un filet. C'était des filets individuels avec des petites pierres tout autour. On le jetait au fond de l'eau et puis ensuite on tirait avec une corde pour faire remonter des poissons. C'était très poissonneux, comme je vous le disais, qui avaient été attrapés. Donc l'action, c'est ça. Ils sont sur le lac. Ils jettent les filets, et là vous avez Jésus qui passe et qui leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Qu'est-ce que le texte nous dit ? Aussitôt, immédiatement, oitus, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Immédiatement, ils ont laissé leur filet dans l'eau et ils sont partis. Ils ont laissé leur filet dans la mer, ils ne les ont pas tirés, ils n'ont pas ramassé le poisson sur la rive, ils n'ont pas pris le temps de le vendre, ils ont tout laissé et ils l'ont suivi, ils ont laissé même l'essentiel de ce qui constituait leur gagne-pain derrière eux. Comme ça, au milieu de la mer. Alors ça, c'est étonnant. Franchement, on s'étonne d'une décision aussi radicale, aussi rapide, sans même un temps de réflexion. Chers amis, on a pas mal discuté de ça mercredi soir lors de notre rencontre de semaine, là où on parle, vous savez, on utilise des questions pour discuter sur le texte qu'on va aborder le dimanche. Et on a eu un petit débat entre nous, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Alors Alain, notamment, qui avait consulté des commentaires sur l'évangile de Marc, pointait vers la notion d'appel efficace. Oui, quand Jésus t'appelle, il le fait de manière efficace. Nous croyons cela. Nous pensons que quand Dieu appelle quelqu'un de manière efficace, cette personne va le suivre. Mais il est vrai que ce n'est pas toujours aussi radical. Pour la plupart d'entre nous, ça n'a pas pris un appel, une fois, un one shot, et puis hop, tu t'es mis à le suivre. Souvent, il a fallu plusieurs appels. Il a fallu qu'on te répète les choses pour que tu te mettes à suivre Jésus. À mon avis, la notion d'appel efficace, même si elle est vraie et qu'on y croit et qu'on adhère à cela et que c'était forcément en jeu ici, ce n'est pas réellement ce que Marc veut souligner. À mon avis, ici, ce qu'il faut se souvenir, c'est tout simplement qu'il y avait déjà eu une préparation dans la vie de ces disciples-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, André était un disciple de Jean-Baptiste. Très probablement, Pierre était lui aussi intéressé par cela, ou Simon-Pierre, n'est-ce pas, ou indirectement enseigné ou informé par André lui-même. Et puis on sait aussi, par l'évangile de Jean, là encore, que Jacques et Jean, et André et Pierre, c'était des équipes de pêcheurs qui travaillaient ensemble. C'était des amis, ils se connaissaient bien, ils faisaient pas mal de choses ensemble, ils travaillaient ensemble, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Nul doute qu'ils avaient le temps de discuter à propos des enseignements de Jean et à propos de leurs attentes sur le Messie, leurs attentes messianiques. Alors, on voit qu'il y avait comme une préparation qui était en jeu ici. Vous vous souvenez sûrement que Jean avait vu cette colombe qui descend sur Jésus, le Saint-Esprit venant sur lui, et ça l'avait directement authentifié. Ce que je suis en train de vous dire en quelque sorte, c'est que c'est possible que cet appel, au moment où il intervient dans leur vie, au moment où Jésus leur dit « suis-moi », c'est peut-être ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils avaient peut-être déjà vu Jésus. D'ailleurs, vous retrouvez encore André qui est près de Jean. Et Jean-Baptiste voit Jésus qui passe dans l'évangile de Jean. Et qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste ? Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quand tu attends le Messie et que tu veux quelqu'un comme lui dans ta vie, t'attends une seule chose, c'est qu'il vienne te voir et qu'il te dise « Suis-moi ». Et à ce moment-là, tu es prêt à tout laisser derrière toi parce que tu sais que c'est ce qui se sera le plus cher. C'est plutôt vers là que pointe l'évangile de Marc, encore une fois de manière extrêmement concise, parce que la tradition était sûrement connue par ses lecteurs, mais cet appel était très certainement ce que ces deux disciples attendaient depuis longtemps, et ils étaient prêts à renoncer à tout pour cela. D'ailleurs, soit dit en passant, la plupart des spécialistes estiment que dans le reste de l'évangile de Marc, lorsque vous voyez Jésus associé à un bateau, Jésus sur un bateau en train de prêcher, Jésus qui les rejoint sur la mer lorsqu'ils sont sur un bateau, etc., etc. Eh bien, la plupart des spécialistes suggèrent que ce bateau, en fait, était le bateau d'André et de Simon. Toutes leurs possessions, en d'autres termes, ils les ont mis au service de Jésus. Si ça, ce n'est pas un exemple de renoncement, chers amis, ça nous montre, pas forcément une voie à suivre, un copier-coller, vous voyez, mais ça nous montre leur état d'esprit. Ça nous montre ce qu'ils étaient prêts à faire. Ça nous montre comment ils étaient prêts à suivre Jésus. Le deuxième récit est moins précis, plus court. On a Jacques et Jean qui sont en train de préparer leur filet. Alors c'est très intéressant ici, typique du pourquoi c'est important de maîtriser les langues originales, parce que les deux termes utilisés pour filet ne sont pas les mêmes et désignent probablement des types de filets différents, mais nos traductions, la plupart d'entre elles, ne font que traduire par filet, bien sûr, on n'a pas plusieurs mots, ou en tout cas on n'a pas forcément envie d'utiliser toute la palette de termes techniques en français pour traduire ces mots-là. Donc c'était un filet qui était plus grand probablement, qui devait être manié par plusieurs personnes, et vous voyez, ils étaient en train de les préparer. Donc leur activité de pêcheur, elle était préparée sur la terre ferme, et a priori leur activité de pêcheur, elle était aussi beaucoup plus structurée. Il y avait des employés, ils étaient plus nombreux, on ne sait pas s'il n'y avait pas plusieurs bateaux. Toujours est-il qu'ils étaient en train de préparer leur filet, et Jésus les voit, et le texte nous dit qu'il les appelle. Il les appelle de la même manière qu'il a appelé André et Simon. Et de la même manière, vous les voyez qui le suivent. Alors, rien ne dit qu'ils sont partis aussi rapidement, mais ils laissent derrière eux leur père, les employés de leur père, une situation a priori confortable pour pouvoir suivre Jésus. Encore une fois, un deuxième exemple de renoncement. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici ? Vous qui êtes venus aujourd'hui écouter la prédication à l'Église réformée baptiste de la Trinité, abandonnez votre travail pour suivre Jésus ? Certainement pas. Ce n'est évidemment pas du tout ce que je suis en train de vous dire, ça serait faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, et surtout ça serait négliger complètement d'autres enseignements des Écritures, comme par exemple que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et là tous les enfants ont peur. Mais non, vous êtes chez vos parents. Mais il est évident que ce n'est pas du tout ce que ce texte enseigne. Par contre, faut-il être prêt à tout abandonner pour suivre Jésus ? Oui. Clairement, y compris ses possessions, y compris sa propre maison. Et c'est un enseignement clé de l'évangile de Marc, Marc 10, 29. Je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, vous voyez, il envisage ça. Il n'est personne qui ne reçoive au centuple. Dans le temps présent, maison, frère, sœur, mère, enfant, terre, avec des persécutions. Et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Oui, le renoncement fait partie de l'ADN du disciple. Oui, le renoncement fait partie de ce qu'il faut être prêt à mettre en œuvre pour manifester dans ce monde que nous sommes des disciples de Christ. Mais cependant, être prêt ne veut pas dire le faire absolument. Ça ne veut pas dire que Jésus vous appelle systématiquement à quitter vos positions. Ça ne veut pas dire que Jésus systématiquement vous appelle au ministère. Ça ne veut pas dire systématiquement que Jésus vous appelle à une forme de renoncement qui passe nécessairement par un abandon de son travail comme ces groupes de disciples l'ont fait. Être prêt ne veut pas obligatoirement dire abandonner tout dans les faits. D'ailleurs, soit dit en passant, vous noterez que ses disciples, au moment où Jésus est mort et entre le moment où il est ressuscité, on les voit, ils sont tout simplement retournés à leur activité, ils sont retournés travailler, ils sont retournés pêcher. Jésus et ses disciples, pendant toutes leurs années de ministère, 3 ans environ, ils ont été soutenus par des gens qui avaient des biens, des femmes de distinction, nous dit le texte, qui travaillaient, qui avaient de l'argent qui rentrait. Jamais ces passages n'impliquent que nous devrions abandonner notre activité de travail. Le principe, c'est qu'il nous faut considérer chacun des appels et des obligations de ces appels d'une manière plus grande encore que n'importe quel autre appel de cette vie. L'appel de Jésus à préséance sur tous les autres appels de notre vie. L'appel de Christ, l'appel à le suivre, va au-delà même de nos familles, au-delà même de nos possessions, au-delà même de ce que nous pouvons faire, dire ou penser. Il est le plus grand appel qu'un homme ou une femme puisse recevoir. C'est celui que nous devons tenir en plus haute estime. Et je crois que je peux vous affirmer, Bible en main, sans aller trop loin et sans être extrême dans mes jugements, que celui qui place l'appel de Jésus au top niveau de sa vie sera toujours béni par Dieu qui ne le laissera jamais tomber. J'aimerais vous dire que c'est ce que j'ai fait tous les jours de ma vie, mais je serais menteur. Et si vous me disiez la même chose, vous savez que vous le seriez aussi. Mais nous savons que chaque fois que nous avons placé l'appel de Christ dans notre vie, en premier, de telle sorte que nous avons accepté le principe de renoncement qui va avec, d'être prêt à renoncer à tout, nous savons qu'il nous a bénis, nous savons qu'il ne nous a jamais laissé tomber. Et c'est pourquoi nous avons l'assurance que Dieu ne laissera jamais tomber notre assemblée, parce qu'il ne l'a jamais fait, il ne nous laissera jamais tomber, il n'éteindra pas le lumignon qui fume, il nous bénira, parce que c'est sa nature même de bénir ceux qui sont en alliance avec lui et qui placent leur confiance en lui. Et tel est notre appel, un appel au renoncement, un appel à la vie de disciple. C'est une équivalence, l'un et l'autre vont ensemble, c'est un effet miroir entre les deux. Si vous êtes à Christ, vous témoignez par là que vous l'avez placé en premier et que vous êtes prêt à renoncer à tout, à considérer comme de la boue tout ce qui n'est pas et tout ce qui entrave et ce qui s'oppose à votre appel à le suivre. Troisième et dernière caractéristique, l'appel à la vie de disciple n'est ni plus ni moins qu'un appel à faire des disciples. L'appel à la vie de disciple n'est ni plus ni moins qu'un appel à faire des disciples. La phrase clé est celle qui nous, cette espèce de, on parle de leitmotiv ou ce catchword en anglais, ce qui vient nous saisir tout de suite quand on lit ce texte, c'est « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes ». Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Voilà la phrase par laquelle Jésus appelle Pierre et André. Alors clairement, c'est un jeu de mots assez bien pensé. Ils sont en train de pêcher, ils ont leurs filets qui sont au fond de la mer. Ce sont des pêcheurs par leur activité. Jésus leur dit, vous pêchez du poisson ? Venez avec moi, je vais vous apprendre à pêcher bien plus gros. Pêcheurs d'êtres humains, pêcheurs de disciples. Nous voyons d'ailleurs l'accomplissement de cette parole lorsqu'il les envoie à plusieurs reprises, les 12, les 70, dans le reste de l'évangile pour proclamer la bonne nouvelle, pour annoncer la parole. Clairement, ce jeu de mots, cette phrase « pêcheur d'hommes » est une référence directe à l'action d'évangélisation et de discipulat. Le principe qui est souligné d'emblée ici, dès l'appel de ses disciples, le principe c'est que l'appel à la vie de disciple est un appel à l'engagement dans la grande mission. Et ce n'est pas un hasard si dans notre liturgie aujourd'hui, nous avons lu ensemble ce texte de Matthieu 28, versets 18 à 20. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers amis, je sais que quand on relit ce verset ensemble, plusieurs d'entre nous se sentent mal. On sait qu'on a des carences. On sait qu'on a des limites. On sait qu'on voudrait faire plus. Et parfois, on veut tellement en faire plus qu'on le fait mal. Est-ce que vous êtes passé par des circonstances comme les miennes quand j'étais jeune chrétien? J'étais tellement content de connaître Jésus. J'étais tellement heureux de l'avoir dans ma vie que je voulais évangéliser tout ce qui bougeait autour de moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler. Je disais beaucoup de bêtises. Mais je le faisais avec sincérité, mais c'était des bêtises quand même. Et surtout, je pense que j'étais un tout petit peu lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Le genre de collègue à ton travail, il t'a tellement parlé de Jésus que tu ne veux plus entendre parler ni de Jésus ni du collègue. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, notre proclamation devient presque une manière de marcher sur les pieds des autres. Alors que nous cherchons à convaincre, pas simplement à balancer des mots, des phrases, des versets, vous voyez? Nous voulons amener des personnes à la connaissance de Jésus-Christ, nous voulons témoigner de cet amour qu'il a eu pour nous et qu'on voudrait qu'il ait pour eux, mais ça prend la grâce de Dieu de faire ça, n'est-ce pas? Mais à mon avis, ici, il y a quelque chose qu'on doit se souvenir et que les évangéliques dans l'ensemble devraient se souvenir au sujet de la grande mission. C'est que la grande mission n'est absolument pas une obligation morale. Et je crois, pour avoir étudié dans la Convention des Baptistes du Sud, qu'on met une très forte pression sur les membres d'Église en leur expliquant que c'est leur devoir, limite, d'évangéliser. C'est pas réellement comme ça que la Bible présente les choses. Elle présente l'ADN du disciple comme quelqu'un qui fait des disciples. Or, faire des disciples, chers amis, c'est bien plus que de simplement annoncer l'Évangile au porte-à-porte. C'est bien plus que du porte-à-porte. C'est aussi s'investir personnellement dans la croissance spirituelle des autres chrétiens. Fin décembre, j'étais au Texas, dans l'église Heritage, qui est une de nos églises de soutien ici, qui soutient notre projet d'implantation à l'église réformée baptiste de la Trinité. Et ils ont été suffisamment bienveillants pour me laisser offrir un message en franglais, c'est-à-dire en anglais avec mon accent, n'est-ce pas? Et pendant que je prêchais ce message, j'ai eu l'occasion de parler de l'appel d'Élisée. Vous savez comment Élisée a été appelé à suivre Élie, et comment dès l'Ancien Testament, on a ce modèle d'appel à la vie de disciple qui se positionne comme un modèle, en fait, de la manière dont les disciples du Nouveau Testament suivent Jésus. Vous vous souvenez certainement, on avait, nous aussi, lu ce texte ensemble. Mais je sais que dans cette église, ils ont eu de nombreux débats sur l'obligation morale d'évangéliser. Certains voulaient contraindre tous les membres à faire du porte-à-porte. Et les pasteurs avaient dit, écoutez, nous n'avons pas tous le même appel. Nous n'empêchons pas de faire cela, mais nous ne voulons pas imposer un fardeau sur les membres. Et voilà ce que je leur ai dit. Je leur ai raconté mon témoignage personnel. Quand je suis arrivé dans cette église à Heritage, alors que j'étais étudiant à la faculté Southwestern qui était juste à côté, je passais par l'un des moments les plus durs de ma vie. J'avais l'apparence de celui qui suit Jésus. Au fond de mon cœur, tout était cassé et sec à un point tel que des fois je me demandais si l'expérience que j'avais faite était authentique. Je venais le dimanche, je m'asseyais sur les bancs, j'écoutais la prédication. Je repartais aussi vide que j'étais rentré. Je me disais, est-ce que le Seigneur a quelque chose pour moi? Est-ce qu'il a une parole pour ma vie? Honnêtement, c'était des questions que je me posais très très fort. À plusieurs reprises, j'ai été encouragé parce que j'avais tendance, vous voyez, à me laisser aller dans ma vie. Le pasteur m'a encouragé, mais très vite, la chose qui m'a béni, c'est la manière dont les gens autour de moi, sans savoir ce que je vivais, se sont investis dans ma vie par le moyen de l'Évangile. Des gens qui me considèrent aujourd'hui comme un pasteur, vous voyez, un gars qu'on met sur un piédestal, quelqu'un qu'on va presque aduler à tort, c'est pas comme ça qu'on devrait voir les pasteurs. Ces gens-là m'ont pris, sans le savoir, comme leurs disciples. Je les observais vivre, je regardais leur vie de famille, je les voyais avoir des cultes personnels, ils m'invitaient chez eux, on mangeait ensemble. Ces gens-là m'ont relevé 1000 pieds à l'étrier et m'ont aidé à marcher dans la voie du Seigneur, tout simplement parce qu'ils m'ont aimé et qu'ils se sont investis dans ma vie avec l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'était juste normal et naturel pour eux. Tu suis Jésus et pendant que tu le suis, prends-en d'autres avec toi. Montre-leur ça. Suis-moi, montre-moi ce que tu fais avec Jésus. Et tu verras que les autres vont se mettre à le suivre aussi. Qui n'a pas envie de vivre ce que tu vis? Et si tu ne le vis pas correctement, trouve quelqu'un qui va t'aider à le vivre bien. Et si tu passes par des moments difficiles, dis-toi que tout le monde passe par des moments difficiles. Mais il existe, et il y a même un devoir ici, non pas simplement une obligation, mais simplement ton identité de disciple. Elle est ce principe même qu'en suivant Jésus, tu donnes envie à d'autres de le suivre. Et pas forcément des gens à qui tu vas aller cogner à la porte pour les attirer à l'église, mais simplement des personnes qui sont assises à côté de toi à l'église et parfois tu ne le sauras même pas que tu auras cet impact dans leur vie parce que tu seras en train de suivre Jésus et de manifester par là la grâce qui est la tienne. Alors je crois qu'il y a une vertu à être intentionnel dans la vie de disciple. Je crois qu'il y a quelque chose de bon quand on a des groupes de croissance ensemble, quand on se met en binôme, et j'encourage à cela. Je trouve qu'on ne le fait pas suffisamment, voire pas du tout dans notre église. Je crois qu'il est bon que nous nous réunissions pour avoir des groupes de communautés, pour nous encourager les uns les autres, que nous soyons intentionnels, que nous fassions des efforts pour nous encourager et nous aider les uns les autres. Mais nous ne pouvons tout simplement pas dire que nous suivons Jésus et refuser de nous engager dans la grande mission avec lui. C'est notre identité même. Et vous n'avez pas à sortir d'ici et à vous sentir coupable parce que vous n'avez pas donné un tract depuis la semaine dernière. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. L'appel qui est le nôtre, c'est de nous investir dans la vie des autres avec l'Évangile, de leur montrer ce maître, cette personne que nous suivons et de leur montrer comment nous le faisons pour que d'autres aussi aient envie de le suivre. Et si vous avez un appel pour aller gagner les perdus dans les rues, à la bonne heure, que l'Église puisse vous encourager à le faire, qu'on puisse avoir des cultes même spéciaux où la parole de Dieu sera prêchée, pour que vous puissiez vous aussi amener des personnes à la foi en Jésus-Christ, et même simplement des formations à l'évangélisation. On serait très content de pouvoir en donner et d'en dispenser. Mais l'appel à la vie de disciple est avant tout un appel à faire des disciples, et c'est bien plus que du porte-à-porte. Bien plus que cela. Alors, chers amis, après ce que nous avons lu et dit aujourd'hui, comment suivre Jésus ? Eh bien, tout d'abord, croyez à son message, croyez à son œuvre, ayez la foi. Soyez prêts à renoncer à tout ce qui pourrait vous empêcher de le suivre. Renoncez, renoncement. C'est plus ou moins ce que la Bible appelle la repentance. Repentez-vous, disait Jean. Il préparait cette vie de renoncement que nous avons étudiée dans ce texte-là. Engagez-vous pour l'avancement du royaume. à faire des disciples. Voilà l'appel que nous donne ce court texte et qui est résumé en une seule phrase. Suis-moi. Chers amis, aujourd'hui encore, Jésus nous invite à le suivre. C'est valable pour vous, c'est valable pour moi. La question qui se présente à nous, est-ce que nous serons prêts à nous engager de tout notre cœur en suivant ce merveilleux Sauveur qui a donné sa vie pour nous, qui a triomphé de la mort il y a maintenant 2000 ans? Est-ce que nous sommes prêts, jusqu'au fond de notre cœur, à renoncer à tout, par la grâce de Dieu, en plaçant l'appel de Jésus au-dessus de tous les autres appels? Est-ce que nous sommes prêts à vivre notre vie de disciple avec tout ce qu'elle implique, en nous investissant dans la vie des autres avec l'Évangile, et en manifestant ce qu'est un disciple authentique qui fait des disciples? Seigneur est bon pour nous, chers amis. On a besoin de se souvenir de notre premier amour, en quelque sorte, de la manière dont Jésus nous a appelés au commencement. C'est ce que ce texte nous invite à faire, en regardant comment André, comment Simon-Pierre, comment Jacques et Jean ont été appelés et comment ils ont ensuite suivi Jésus. Vous savez que ce n'a pas été de tout repos pour eux. Vous avez vu le reniement de Pierre, n'est-ce pas? Mais comme Dieu est bon, il les a maintenus jusqu'au bout, il les a gardés marchant jusqu'à la fin. Le Seigneur vous encouragera aussi. Et il est bon que nous contemplions ce texte ensemble aujourd'hui, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous garde, prions. Seigneur, il est bon pour nous de nous souvenir combien nous avons besoin de toi et combien nous sommes dépendants de toi et combien il est logique que nous placions ton appel au-dessus de tous les autres appels, Seigneur. Et je crois que je ne m'avance pas trop en me plaçant comme un représentant de toute l'Église aujourd'hui ainsi rassemblée en disant « Seigneur, on a besoin de ta grâce ». Besoin de ta grâce pour mettre un pied devant l'autre, besoin de ta grâce pour marcher à ta suite, besoin de ta grâce pour accepter de renoncer et renoncer même quand on n'accepte pas, Seigneur. Besoin de ta grâce pour vivre cette vie telle que tu nous appelles à la vivre. Besoin, Seigneur, de ta grâce pour pouvoir nous investir dans la vie des autres avec l'Évangile et accepter que les autres s'investissent aussi dans notre vie. Merci, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu n'as pas eu honte de t'abaisser jusqu'à nous pour nous montrer l'exemple et rester comme le modèle parfait du disciple authentique afin que nous marchions à ta suite. Merci parce que tu es plus qu'un simple disciple, tu es notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tu es le Dieu homme, c'est toi que nous suivons. Aide-nous à nous en souvenir, au nom de Jésus-Christ. Amen.